Bonjour, aujourd'hui, en ce 29 novembre, c'est la fête de Saint-Saturnin, ou on l'appelle aussi Cernin, évêque de Toulouse. C'est aux environs de 450, près de 300 ans après les événements qui ont été relatés au sujet de ce saint, qu'on a une passion, c'est-à-dire un récit. Hein? Alors, je vais vous parler un peu brièvement de ce saint Saturnin qui est très lointain, mais qui demeure dans, on pourrait dire, cette légende dorée, un saint qui nous enseigne l'attachement à Dieu, au vrai Dieu. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Et je compte par la suite réaliser un rêve que je me proposais depuis plus de 150 émissions, de traiter de ce problème, si on peut dire, de la sévérité de l'Église à l'égard de ceux que l'Église appelait autrefois les hérétiques, et essayer de comprendre ce qui s'est passé particulièrement avec cette hérésie dont il est souvent question dans des revues, des journaux aujourd'hui, les cathares hein, et l'Inquisition, le début de l'Inquisition. Alors je vous parle donc tout d'abord de Saint Saturnin, qui était un clerc, c'est-à-dire un clerc toulousain plutôt aux environs de 450, a rédigé dans une prose assez intéressante, la vie ou la passion, la fin de la vie de Saint Saturnin. On peut dire que c'est un morceau plutôt oratoire, hein? C'est amplifié par la légende. Ça doit pas faire oublier quand même, comme je vous ai dit, l'essentiel qui tient dans trois phrases que voici. Il est certain, donc, dans les premiers siècles, il est certain qu'existe à Toulouse un grand apôtre nommé Saturnin ou Cernin. D'ailleurs, il y a une église Saint-Cernin, n'est-ce pas, à Toulouse? Une église très belle, très intéressante à visiter. Il y a là un musée d'objets anciens, de sculptures très, très anciennes, fascinant, fascinant. Et alors, ce païen, ce chrétien prosélyte, en même temps, opère des conversions, des conversions merveilleuses, puis il meurt pour la foi. Or, dans le sud de la France, plus de 20 localités portent son nom. Et hors de là, règnent des légendes qui sont celles des dieux romains qui sont offensés par ce Toulousain. Et la fameuse basilique Saint-Cernin de Toulouse demeure actuellement avec ses 5 nefs de 11 travées, c'est immense, l'une des plus belles églises de pèlerinage en France, Saint-Cernin de Toulouse. Alors, je vous conseille d'y aller. On y conserve d'ailleurs le reliquaire de Saint-Saturnin, c'est un coffret du XIIIe siècle, qui est pas très grand, mais qui mérite d'être vu. Il représente le martyr entre les pattes d'un taureau. Et puis, les anges recueillent l'âme de ce supplicié pour la porter à la Vierge Marie, qui la présente, elle, au Christ. C'est donc une image très ancienne qui nous rappelle l'insistance avec laquelle on parle de Marie comme médiatrice. Qu'est-ce qu'a dit Saint Saturnin au moment de sa mort? Il dit aux gens du Capitole, on appelait ça comme ça, il dit « Vos dieux capitolins sont faux. Je ne connais qu'un unique Seigneur. C'est à lui que j'immolerai des louanges. Quant à vos dieux, ce sont des démons. Vous les honorez vainement moins par le sacrifice d'animaux que par la mort de vos âmes. » Comment voulez-vous que je craigne ceux qui, selon votre propre témoignage, sont effrayés par moi? Car il était très dépourvu, pauvre homme. Alors on a dans un poème de Venance Fortuna, dont je vous ai parlé déjà, qui est mort en 600, lui. Il est écrit « On suspend Saturnin ». À l'une des pattes arrière d'un taureau, on l'y attache solidement, et ainsi traîné, il se trouve déchiré et meurt. Et c'est ainsi que son âme passe de la terre au ciel. Heureux celui qui, par son trépas, terrasse la mort elle-même. Mais ce lieu vénérable où le saint fut lié au bœuf, n'est paré d'aucun temple. plusieurs siècles après seulement. Lonnebol, le noble duc, construit un édifice sacré. De la sorte, ce qu'aucun Romain n'avait fait, un barbare le réalise. Un barbare, c'est-à-dire un étranger à l'Empire de Rome, hein? Un Toulousain, quoi. Ce sont de vieux récits qui nous rappellent l'immense cohorte de martyrs du XXe siècle. Pensez à tous ceux qui sont martyrisés à l'heure même où vous m'écoutez. Des gens qui sont torturés. Amnesty International nous en parle. L'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, nous en parle. Pensez à ces prêtres qui ont été tués malheureusement par certains extrémistes en Algérie. Mais surtout, l'immense cohorte de ceux qui ont été tués en Asie, ou particulièrement en Russie et en Ukraine, depuis 1917, depuis 1920 surtout, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Et dans l'Allemagne nazie. Mais pensez aussi à tous ceux qui, honnêtes, sincères, combattent pour la justice, même ici au sein de la police, au sein des universités qui perdent leur job ou qui perdent leur promotion, qui sont martyrisés de quelque façon que ce soit au nom d'une simple justice, que ce soit parce qu'ils sont chrétiens ou parce que simplement ils sont honnêtes. Il y en a beaucoup. Beaucoup plus qu'on pense. Hein? C'est le fameux écrivain Jacques de Voragine qui a écrit il y a bien longtemps la Légende dorée. Ordonné prêtre par les disciples des apôtres, Saturnin est désigné pour aller occuper l'évêché de Toulouse. Et comme dès son entrée dans la ville, tous les démons cessent de répondre aux questions qu'on leur pose, un des païens déclare « Si Saturnin n'est pas sacrifié, nous n'obtiendrons plus jamais rien des dieux. » On s'empare donc de Saturnin, et sur son refus de sacrifier, on l'attache à la patte d'un taureau furieux, qu'on précipite sur l'escalier du Capitole. Deux femmes recueillent le corps brisé et le cachent dans un puits. Plus tard, les successeurs de Saint-Saturnin le transportent dans un lieu consacré. Ces récits très anciens peuvent être légendaires, mais ils nous rappellent l'attachement à la vérité de tous ces saints à travers les siècles. Et ce qui est un peu désastreux dans l'histoire de l'Église, c'est le manque de discernement qui a empêché, au fond, de faire coïncider le centre de l'histoire de l'Église là, avec l'histoire de la sainteté. C'est ce que nous essayons de faire aussi à cette émission. Car la sainteté a été presque toujours traitée comme un appendice à l'histoire de la grande institution ou des institutions de l'Église, à l'histoire du dogme ou des dogmes, à l'histoire du culte ou des cultes, à l'histoire de la politique ecclésiastique. Mais c'est une vision humaine, bien que trop humaine, ça, de l'Église. Et je pense que ça engendre dans nos âmes de croyants une gêne certaine. Chaque fois que nous sommes appelés à prononcer cet article du « Je crois en Dieu », « Je crois en l'Église une sainte catholique ou universelle, n'est-ce pas, et apostolique ». Est-elle sainte, cette Église? On nous parle constamment de croisades, d'inquisition, de papes qui ont fait ci, de ça, de prêtres comme ci, de laïcs comme ça, de sœurs comme ça, d'erreurs dans l'histoire de l'Église, d'abus, de Galilée. On n'en finit plus. Est-ce bien ça, l'Église? Évidemment, je ne demande pas qu'on passe sous silence toutes les faiblesses de l'Église, les tâtonnements, la misère même du culte, la misère de l'art dans l'Église, tout cet art dit de Saint-Sulpice qui est assez pénible. Je ne veux pas qu'on passe ce silence et les échecs aussi de la politique de l'Église, souvent qui a dû poser des gestes politiques et qui a fait des erreurs. Mais il me semble que tout ça est sous-jacent à la sainteté qui a sans cesse surgi au pire moment même dans l'histoire de l'Église. Les saints, ce sont eux qui se sont efforcés de ne jamais oublier cette maison de Dieu qu'est l'Église, tout en employant les matériaux de leur époque pour construire cette Église. Et ces matériaux ont changé, car la sainteté a changé au cours des siècles. La sainteté de ce saint Saturnin de tout à l'heure n'est au cœur de la sainteté. C'est l'attachement à Dieu. Ne pas servir d'autre Dieu que Dieu seul. Ça, c'est l'essentiel. Mais elle a pris toutes sortes de formes. On peut comparer ça aux variations dans l'architecture, mettons. Prenez l'exemple de Sainte-Sophie à Constantinople, qui est devenue une mosquée. Bon, c'est une immense et magnifique église du style byzantin, absolument superbe. Mais si on la compare à Notre-Dame de Paris, c'est tout autre chose. Et il y a la cathédrale de Brasilia, quelle étrange cathédrale comparée aux autres. Mais ce sont toutes des églises, et ce sont des réussites différentes. C'est la même chose pour la sainteté. La sainteté peut être celle des moines, mais n'oublions pas qu'elle est surtout la sainteté du quotidien. C'est plein de saints que l'on ne remarque pas, qui sont comme de tout petits saints, mais qui sont grands. Et ce sont des gens tout simples, mais ça se fait par une ascèse, car les fondements de la sainteté, c'est l'ascèse, et c'est d'ailleurs Maurice Béjart qui disait, danser, vous savez, Maurice Béjart, directeur des ballets du XXe siècle, grand maître de ballet de ce siècle. Danser, c'est se mettre debout et faire n'importe quoi. Mais après avoir passé 20 ans d'ascèse. Et je crois qu'il a bien raison. On n'arrive pas à la sainteté sans ascèse. Comme on n'en arrive pas à être un très grand danseur ou une grande danseuse sans ascèse. Mais c'est aussi nécessaire de prier. La prière et l'ascèse sont fondamentaux. Fondamentaux, c'est fondamental. Et la prière eucharistique en particulier. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, peut donc devenir un saint, c'est-à-dire laisser toute la place à Dieu lui-même. Et c'est pourquoi dans l'Église, souvent, dans cet idéal qui était celui de l'Église, l'homme chrétien s'est révolté devant certaines hérésies abominables comme celle des cathares. Car l'homme, selon le dessein de Dieu, s'il est fait pour vivre en société, c'est-à-dire en famille, profession, en province, dans un pays, dans l'humanité entière, mais chaque membre du corps social demeure différent des autres. Toutes les différences concourent à quoi? À l'amour. Parce qu'il faut se mettre les unes les autres au service, les uns des autres. Il faut assurer une complémentarité, c'est-à-dire il faut se compléter les uns les autres au sein des familles, au sein des pays, au sein de l'humanité. On a des dons différents, on a des compétences différentes, mais chacun est important. Mais malheureusement, en raison de ce qu'on peut appeler le péché qui nous habite, la faiblesse, l'orgueil, l'égoïsme et tout ça, bien, cette circulation ne se fait pas très souvent, pas aussi souvent en tous les cas qu'elle devrait se faire. Il n'en reste pas moins que c'est plein de bénévolat. On le voit ici à Radio-Ville-Marie, c'est admirable. On le voit un peu partout, à Montréal et dans les environs, et dans le Québec, et partout dans le monde de plus en plus. C'est beau, ce bénévolat. Il y a une lutte contre le péché d'égoïsme. Mais beaucoup de gens cherchent dans la vie sociale son intérêt personnel. Cet intérêt personnel, ils ne veulent pas le subordonner à celui des autres. Et alors, il devient nécessaire qu'il y ait une autorité contraignante pour sortir de la loi de la jungle et pour permettre aux hommes de réaliser une certaine équilibre de leurs compétences pour que chacun puisse en profiter. Alors, cette autorité est dangereuse, car elle est exercée par des pécheurs. On revient encore au péché. Puis elle tend à dépasser les bornes légitimes, hein? Tout ce qui règle le vivre ensemble, des fois on dépasse. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu tant de persécutions, en particulier dans ce siècle, des abus épouvantables du pouvoir, de l'autorité. Et ça devient l'instrument de la volonté de puissance d'un homme ou d'un groupe. Alors une société civile, qui est le pendant de la société religieuse, la société civile a pour but d'assurer la paix, de permettre aux personnes qui la composent de communiquer puis de s'entraider. Et son but, c'est pas d'acheminer les hommes à la vertu, à la sainteté, ni de se substituer aux religions et de faire de la morale. La tâche du pouvoir civil ne se limite pas quand même à garantir les moyens matériels de la vie en société pour que les gens puissent avoir suffisamment pour vivre, et aussi la sécurité des routes, l'indépendance du pays, l'indépendance nationale, etc. Il ne s'agit pas seulement de vivre, mais encore de bien vivre. Et les valeurs font partie de la vie, hein? Aucune société, on le sait, ne peut survivre à un désaccord complet sur les principes élémentaires qui guident l'existence d'une société. S'il n'y a plus d'ordre, tout s'effondre. Le libéralisme total, c'est une utopie très, très dangereuse, car ce libéralisme total engendre une permissivité qui est source d'anarchie, de tyrannie future. On le voit aujourd'hui de plus en plus dans le monde. Il y a un libéralisme total qui est extrêmement gênant, et l'Église crie contre ça et s'oppose, et elle n'est pas la seule. Une société qui ne serait pas capable de proposer des valeurs, là, qui motivent l'effort, une espèce d'ascèse en somme, et qui suscite la générosité, de cette société-là serait une société en voie de décomposition. L'atteinte portée à ces valeurs-là, quand elles sont largement partagées, est donc un délit. C'est un délit qui relève de la compétence de l'État. Et aujourd'hui encore, on se rend compte que la propagande en faveur du vol, la propagande en faveur de la dénatalité, de l'avortement, la propagande en faveur du racisme, on l'a vu en Bosnie et tout ça, et c'est pour rien que là. Pensez aux Juifs qui ont été presque éliminés. Pensez aux Noirs qui ont été maltraités. Pensez aux gens qui sont traités de toutes sortes de façons. Mais le racisme va beaucoup plus loin que le racisme pur et simple. Pensez à notre façon de traiter les gens faibles d'esprit, dont l'esprit ne fonctionne pas. Que c'est triste. Mais tout ça, on peut se rendre compte que tout ça paraît difficilement compatible, n'est-ce pas, avec l'existence d'une société intelligente et d'une humanité qui serait vivable. C'est pour ça qu'on réprime depuis 1945, en particulier, l'antisémitisme militant. Mais il suffit pas de cette espèce de coercition pour assurer le respect de ses valeurs, hein. La nature humaine étant pécheresse, tout ça, ça reste inévitable. Et c'est là qu'entre l'Église, notre grande et merveilleuse Église catholique, qu'on dise ce qu'on voudra, moi je l'aime et je ne m'en cache pas. C'est cette société très particulière dans laquelle on entre, pas nécessairement par la naissance, hein. On y entre par la foi. Il s'agit de croire. Des catholiques qui communient et qui arrivent dans leur banc sans se préoccuper de l'Eucharistie qu'ils ont reçue et qui mettent leurs gants, leurs foulards et leurs chapeaux. Que tout ça me désole. C'est un détail, un petit détail. Mais la foi fait qu'on adhère à Jésus-Christ et qu'on veut en vivre et qu'on veut pratiquer ce qui est écrit dans l'Évangile, les paroles qui sont sorties de la bouche de ce Jésus que l'on reçoit dans l'Eucharistie et avec lesquelles on s'offre à l'amour éternel du Père dans l'unité de l'Esprit-Saint. C'est ça la messe. Nul ne peut être forcé d'adhérer à la foi chrétienne, c'est sûr. C'est précisément une rencontre de la grâce divine et de la liberté humaine. Mais néanmoins, l'Église doit veiller, voilà la coercition de l'Église. Elle doit veiller à préserver la pureté du message qui lui est confié. Elle doit résister au ferment de division qui la menace. Comme toute société, ce qui suppose un certain nombre de moyens de contrôle, mais c'est pas facile. Elle doit offrir à ses membres, qui ne sont pas tous des héros et des savants, le milieu vital où peuvent s'épanouir et leur foi et leur vie chrétienne. C'est pas tout d'avoir la foi, il faut que la vie jaillisse. Aussi, lorsque certains chrétiens se disent chrétiens, menacent la cohérence ecclésiale, l'unité de l'Église, est-ce que l'Église pourra et devra leur retirer les moyens de nuire? Elle ne possède pas, en tant que société spirituelle, l'usage de la force armée qui conviendrait à sa fin. Les seules armes dont elle dispose sont l'excommunication et la censure, c'est-à-dire qu'elle peut retirer, une permission à un livre ou à un enseignement dans lesquels elle ne reconnaît plus sa foi. Elle peut errer des fois là-dedans, mais quand même, il faut bien qu'elle agisse. On ne peut pas dire n'importe quoi dans l'Église et dans les enseignements. Elle peut exclure de ses assemblées, de ses membres, un de ses membres en tout cas, qui s'est mis en contradiction avec elle, à cause de ses idées, de sa conduite, et qui s'est au sens propre excommunié, on le voit dans saint Paul, la première épître aux Corinthiens, chapitre 5. L'Église ne peut pas exercer une contrainte directe, peut-être. Le principe est jusque-là relativement clair, mais la difficulté, voilà, j'aborde la question, vient des inévitables interférences, on pourrait dire, entre la discipline ecclésiastique et la coercition de l'État. Du côté de l'Église, d'abord, il arrive qu'un schisme survienne en son sein, puis que des hérétiques se constituent en sectes. Et c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Car le conflit peut entraîner des affrontements publics, des vols, des occupations de locaux, hein. Et dans la mesure où le conflit n'est pas purement religieux, mais que ça trouble la paix civile, puis ça porte atteinte aux intérêts matériels et spirituels d'un groupe important de citoyens, et il appartient à l'État, même religieusement neutre, d'intervenir parfois et de protéger les droits de l'Église. Mais par contre, si l'hérétique, ou celui qu'on appelle le schismatique, n'introduisent aucun désordre effectif et se contentent de propager leurs pensées par des moyens pacifiques et légaux, ben, ce serait abusif que l'Église fasse appel à l'État pour régler à sa place un problème de son ressort. Alors, nous verrons tout à l'heure ce qui s'est produit dans, il y a de nombreux siècles, avec l'hérésie cathare et l'Inquisition, et nous essaierons de mieux comprendre si l'Église a fait des erreurs, c'est sûr, mais jusqu'où est-ce qu'on doit l'accuser de tous les méfaits ou essayer de comprendre. Je poursuis pour essayer d'expliquer comment se fait-il que l'Église, parfois, à travers, mais même encore aujourd'hui, on le lui reproche, l'Église, parfois, s'est montrée trop dure, qu'elle a été une mauvaise mère. C'est que, faut pas oublier qu'autrefois, il y avait un régime de chrétienté. On l'a eu ici au Québec il y a de nombreuses années. Un régime de chrétienté qui pose un problème. Hein? Parce que quand la société est composée presque exclusivement de croyants, la frontière là, entre la défense de la foi puis la préservation de la vie sociale, c'est pas facile à percevoir. Hein? Quand tout le monde est chrétien, est-ce qu'on peut laisser les gens blasphémer sur la place publique devant tout le monde? Est-ce qu'on peut laisser des gens insulter les prêtres et les traiter de toutes sortes de choses en public, Est-ce qu'on peut laisser les gens, je ne sais quoi, hurler s'il y avait une procession du Saint-Sacrement dans la rue et nuire au bon ordre? Bon. C'est là que la police peut intervenir, hein. C'est pas facile. C'est difficile à percevoir. En tous les cas, les États, même chrétiens, ne peuvent prétendre, évidemment, établir ce qu'on pourrait appeler une Jérusalem céleste, là, une cité de Dieu. Puis, leur conservation ne peut s'imposer comme une nécessité qui primerait sur toute autre considération. Mais n'empêche que ce qui est menacé par l'hérésie, ce n'est pas seulement une idéologie, c'est le ciment, si on peut dire, d'une société comme ça. C'est l'échelle des valeurs, voilà, qui règle depuis des siècles les rapports au sein de toute une communauté civile, de tous les citoyens qui sont là. C'est tout un style de vie pétri par l'exemple des saints qui nourrit tous ces citoyens-là, puis qui a façonné à son tour la vie quotidienne, les échanges économiques, les modes de pensée, et même parfois jusqu'au paysage urbain avec tous ces clochers et les couvents, les choses. Ces valeurs sont partagées à l'époque par la quasi-totalité de la population. Quand on les laisse saccager par des gens qui s'opposeraient à ça, on expose la société à l'anarchie puis les fidèles à l'abandon. Alors on comprend que les gouvernements, solidaires avec les responsables de l'Église, aient conçu qu'il était de leur devoir, à certains moments de l'histoire, de maintenir là, cette cohésion de la société autour de ses valeurs, et puis de châtier les hérétiques reconnus, comme il l'aurait fait pour les incendiaires ou les faux monnayeurs. Hein? Cette lutte n'a jamais eu le caractère des conflits idéologiques du XXe siècle. Elle reste limitée dans le temps et l'espace. Il y a une flambée qui a été consécutive à une crise particulièrement grave qui est survenue à un point là, de la chrétienté, elle s'arrête. Hein? Les papes, lors même qu'ils ont lancé la répression, par exemple au XIIIe siècle, hein? On va en parler tout à l'heure, ont toujours cherché à réglementer la procédure. Ils ont voulu éviter qu'elle ne dégénère en règlement de compte. Vous savez, les papes ont été beaucoup plus intelligents qu'on veut bien le dire. Hein? Je suis fatigué parfois, moi, d'entendre dire que ces papes de cette époque étaient, pour ainsi dire, tous de pauvres minables qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il faut lire les textes, il faut lire l'histoire. Et c'est curieux de constater qu'aucun saint de ces époques n'a élevé d'objection contre la pratique de l'Inquisition. Et pourquoi? Même s'il a pour son compte utilisé d'autres méthodes, lui, que la force, le saint. Peut-être ne nous choque-t-elle aujourd'hui dans notre sensibilité que parce que nous avons perdu conscience de l'enjeu qui se jouait à l'époque. C'était tout autre chose. Il faut se mettre dans l'idée de... C'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui. C'est très important. Il n'empêche qu'il est toujours dangereux de déchaîner la violence, même pour une cause juste. Les abus de la répression s'entraînent évidemment l'escalade de la résistance. Surtout, la coercition n'est jamais qu'un pis-aller. Hein? L'appel à la sainteté, la persuasion, puis la charité héroïque, là, c'est les trois choses qui restent les grandes armes, à mon avis, du christianisme. Je le répète, l'appel à la sainteté, la persuasion fraternelle, puis la charité héroïque, aller au-devant même si on risque d'être tué par la haine des autres. C'est ça les grandes armes du christianisme. Car le recours trop facile à la répression, à mon avis, ça traduit le plus souvent la perte du vrai dynamisme spirituel du christianisme. Or, l'hérésie cathare, ou l'inquisition, vous savez... On parle souvent de ça, bien si. Donc, depuis l'arianisme, la chrétienté n'avait pas connu de crise aussi grave que l'hérésie cathare. C'est au XIIe siècle. On oublie trop souvent que l'instauration de l'Inquisition, c'est la réponse à une situation de fait. Le catharisme rongeait comme un cancer, vraiment là, et on sait pas une exagération ça. Ça rongeait comme un cancer toute l'Europe médiévale. C'était terrible. C'est un mouvement en germe depuis le 10e siècle. C'est une sorte de manichéisme. Qu'est-ce que c'est que le manichéisme? C'est la doctrine de Manès qui expliquait, avec tous les gens qui partageaient sa doctrine, et ça s'est répandu, hein, qui expliquait la présence du mal dans le monde par deux principes. L'un bon, l'autre mauvais, qui étaient en lutte l'un contre l'autre. On va y revenir. Alors, le manichéisme, le catharisme, se développe lors des contacts de plus en plus fréquents avec l'Orient, tel point qu'au début du XIIIe siècle, il y avait une église hérétique qui était constituée. Et sa doctrine est simple, vous allez voir comme c'est terrible. C'est vraiment une doctrine épouvantable. C'est simpliste. Ils disent que Dieu n'a pas créé le monde matériel. Dieu n'a pas créé le monde matériel, selon eux. Le monde matériel, disent-ils, est l'œuvre d'un Dieu mauvais. Et tout ce qui rattache l'âme à la matière, donc, est mauvais. Alors, ils arrivent à quoi avec ça? Ils arrivent à dire que la réalité sacramentelle de l'Église est disqualifiée. Les sacrements, puisqu'il y a de la matière, hein, l'Eucharistie, de l'eau bénite pour les sacramentaux, des huiles, etc. Tout ça, c'est disqualifié, c'est générateur de mal. Même l'Église visible, l'Église catholique, est manifestation satanique, d'après eux, puisqu'elle est visible. C'est incroyable. Le catharisme est très, 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 très élitiste. Hein? Car ils disent, une partie seulement de ses fidèles peut vivre son idéal de total dépouillement de la matière. Les autres, ils se contentent d'espérer recevoir de ceux qu'ils appellent les parfaits une sorte de confirmation qu'on appelle le consolamentum à l'heure de leur mort. Là, peut-être qu'ils vont pouvoir entrer au ciel si les parfaits les aident un petit peu. En tout cas, c'est une hérésie qui est patente. Hein? C'est le rejet du visible. C'est une attitude suicidaire. Hein? Ni l'Église ni la société peuvent accepter ça. Et d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une simple école de pensée. Dans le sud de la France, imaginez, une partie de l'aristocratie favorable au cathare a profité de la nouvelle doctrine pour justifier, quoi? Des impôts exagérés sur ceux qui ne voulaient pas devenir cathares, qu'on considérait comme des infidèles, c'est-à-dire les catholiques. On imposait des charges énormes aux biens de l'Église catholique. Ce péril cathare, c'est pas un mythe. La solidité de son implantation, d'ailleurs, là-bas, dans le sud de la France, ça se mesure à la résistance passive ou violente qu'ont rencontré par la suite les inquisiteurs, ceux qui faisaient des enquêtes. Le mot inquisiteur, à cette époque, c'est là. Ce sont des enquêteurs. Hein? Malgré le secours des pouvoirs publics, puis parfois même le soutien de la population qui voulait être délivrée des cathares, hein? Parce que c'était trop épouvantable de vivre avec ce monde-là. Alors, pendant plusieurs dizaines d'années, l'Église a hésité sur le choix des moyens. L'Inquisition épiscopale, qui a été instituée à Vérone, en Italie, par le pape et l'empereur, n'a lutté que bien mollement contre la propagande de ces hérétiques. Les missions de prédication, je vous en ai déjà parlé, qui avaient été confiées à des ordres réguliers, là, comme les cisterciens, puis ensuite les dominicains, n'ont pas eu de résultat. L'Église a été patiente pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Hein? Le déchaînement, finalement, de la croisade contre le comte de Toulouse, grande ville dans le sud de la France, ce qui était suspecté, lui, de protéger les hérétiques cathares, ben, ce déchaînement de la croisade a ouvert la porte à d'énormes abus, et ça, c'est terrible. Ça n'a fait que dresser une partie de la population de ces régions occupées contre le pape, contre le Saint-Siège, sans parvenir à isoler vraiment ces hérétiques qui rejetaient même le mariage parce que c'était matériel. Les mesures extrêmes qui ont été décidées par l'empereur et peu à peu acceptées, même renforcées par les papes du XIIIe siècle, arrivent au terme de ces tâtonnements et de ces échecs. Et là, bien, on livre les cathares un à un au bras séculier, c'est-à-dire au pouvoir de l'État, pour être brûlé, et c'est triste ça. Ce qu'on appelle pudiquement le châtiment dû. Mais encore, mettons-nous dans l'esprit de l'époque où le fait de brûler quelqu'un n'a pas la même, ne crée pas la même épouvante qu'aujourd'hui. C'est très difficile à expliquer. Pensez, à ce siècle-ci, c'est pire. C'est pire. C'est par dizaines de millions. On en a tué 100 millions, peut-être, dans ce siècle-ci. C'est bien pire que ce qui s'est passé à cette époque. Mais déjà, c'est terrible. Mais c'est ça, quand ils ont commencé à faire ça, c'était impensable 20 ans plus tôt. En quelques années, en somme, l'Église a adopté une espèce de climat juridique. Elle s'est dotée d'un instrument terriblement répressif, qu'on n'avait jamais vu dans la chrétienté. Des commissions extraordinaires, là, sans autre titre qu'une permission ou un mandat pontifical, vont se substituer à toutes les autorités ecclésiales locales. Et puis, on va jusqu'à juger des clercs, des laïcs, on juge même des défunts. On tombe dans l'exagération épouvantable. Alors, l'usage généralisé de la peine de mort, on s'empare des biens aussi des gens, c'est terrible. Finalement, Nicolas Ier, lui, est rappelé à la mémoire, lui, le pape qui avait condamné en 866 toutes ces peines infamantes qu'on faisait, en particulier sur les enfants. Il avait lutté contre ça des siècles plus tôt, mais on n'a pas voulu écouter ce qu'il avait dit plusieurs siècles plus tôt. En somme, l'urgence de la situation, la surenchère entre le pape et les souverains temporels, tout ça, ça peut expliquer la brutalité de la réplique, mais ça la justifie pas, hein, pas du tout. D'ailleurs, l'Église s'est ressaisie très rapidement, ça il faut le dire, hein. Et c'est à l'avantage de l'Église, heureusement. Sans attendre que l'hérésie soit définitivement extirpée, ben là, les papes ont relâché la pression de l'Inquisition, en désavouant au besoin leurs délégués, qui étaient tentés, eux, de poursuivre la lutte par tous les moyens. Et peu à peu, la recherche et la punition des délits contre la foi sont entrés dans les cadres de la législation ecclésiale. Et là, l'évêque du diocèse, lui, c'est lui qui était responsable de la foi dans son diocèse, a retrouvé sa place. Et là, les droits de la défense ont été reconnus. Et souvent, c'était des dominicains qui prenaient la défense. On voit toujours les dominicains comme les accusateurs, mais ils sont souvent les défenseurs. Il y avait un temps de grâce qui était proclamé, durant lequel ces hérétiques qui acceptaient de se soumettre après la prédication de la doctrine catholique étaient libres de toute poursuite. Si la peine de mort n'était réservée que dans les cas de ceux qui retombaient dans leurs erreurs. Des erreurs qui étaient très graves, je vous les ai données tout à l'heure. Hein. Dans tous les autres cas, il y avait des peines diverses. On les obligeait à faire un pèlerinage, à réciter quelques prières. Parfois, on les incarcérait quelque temps. Dans quelques cas, on les a incarcérés définitivement. On s'est souvenu que l'hérésie ne devait être poursuivie que si elle était militante et publique. Alors, qu'est-ce qui était en cause? L'Inquisition, c'est le cas extrême de la collaboration du pouvoir civil et du pouvoir religieux, et c'est regrettable. On est souvent tenté de calquer l'ensemble des rapports entre l'Église et l'État sur ce qui s'est passé à cette époque. Faut pas exagérer. En réalité, l'Inquisition du Moyen-Âge s'exprime dans un contexte très, très, très particulier. C'est dans des modalités spécifiques. On peut pas reproduire ça aujourd'hui de façon claire. C'est plus possible. C'est impensable. C'est très difficile à comprendre. Quand on comprend l'histoire, on ne la comprend qu'en partie. En somme, l'hérésie cathare, il faut pas l'oublier, mettait en péril non seulement l'unité de la foi, mais aussi l'ensemble de la société. Il y avait chez eux le refus du serment, il y avait le refus du travail, il y avait le refus du mariage.
C'est terrible quand on y pense. Ça détruit une société. C'est un cancer, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors on comprend que l'Église, puis les États chrétiens, menacés ensemble par un mal qu'ils n'arrivaient pas à saisir et cherchaient à répliquer. La papauté, après avoir invité à l'utilisation des procédés traditionnels, de la prédication, des ententes, a dû employer les grands moyens, en mobilisant l'ensemble du peuple chrétien, puis en faisant largement appel, finalement, aux bras séculiers, pour rechercher ces hérétiques et les supprimer. C'est dommage. Et rien jusque-là qu'on ne puisse admettre jusqu'à un certain point, si on considère l'histoire. À moins de considérer qu'une société chrétienne n'a pas le droit de défendre les valeurs sur lesquelles elle est bâtie, et dont dépend finalement la vie des hommes et des femmes. Position qui relèverait d'une espèce d'idéalisme, un idéalisme qui n'a pas de bon sens. Si l'Église, rappelons-le, n'était pas intervenue à ce moment-là, elle ouvrait la porte au règlement de compte par la répression séculière de l'État qui aurait été bien pire. Reste que le bien commun de la chrétienté ne justifie pas tout, c'est sûr. Il y a certaines méthodes qui manquent souvent à l'objectif qu'on s'est fixé. Il me semble que le bannissement, dans tous les cas, aurait été bien supérieur à toutes les peines. Il suffisait de les chasser. Le respect des droits de la personne humaine, et notamment de la conscience intérieure, devrait être préservé. Ça devrait être préservé, ce qui n'a pas toujours été le cas. Même si le pape, puis les conciles locaux, là, dans les diocèses, ont fait un effort considérable, quand on lit bien les textes, pour doter l'Inquisition d'une procédure claire et équitable à ce moment-là. Je vous rappelle que des saints eux-mêmes ont participé directement ou indirectement à l'Inquisition. Exemple, Saint Louis, le roi de France. Saint Dominique, fondateur des Dominicains. Mais peut-être que ces saints avaient-ils pressenti que cette arme à double tranchant pouvait être maintenue au service de la foi, si, à une condition, si elle était ordonnée par une pratique conforme à la justice, ce qui est très, très, très difficile à exercer. Il y a eu aussi le procès des Templiers. La fondation de l'ordre du Temple à cette époque est intimement liée à l'histoire des premières croisades. La multiplication des pèlerinages en Terre Sainte, ça nécessitait la protection des chemins. On n'allait pas en Terre Sainte en avion comme aujourd'hui, évidemment. On allait parcourir des sentiers, des petites routes. C'était très, très dangereux. Et arrivé dans ces régions-là, il y avait les musulmans, et certains musulmans n'aimaient pas tellement les chrétiens. 1 millier de Templiers se sont laissés emprisonner quand ils ont été arrêtés, sans opposer de résistance. Et les chefs d'accusation sont énormes. Encore, faut-il savoir pourquoi les Templiers ont été arrêtés? C'était un ordre religieux et militaire à la fois. Alors, sur la foi de dénonciation qui provenait d'anciens Templiers qui avaient été exclus de l'ordre pour inconduite, ils étaient enragés contre l'ordre qui les avait mis dehors, le Temple, l'ordre du Temple, les Templiers, étaient accusés d'hérésie, de pratiques obscènes et de sacrilèges lors des réceptions, de non-consécration de l'hostie lors de l'Eucharistie, de profanation de la croix. Toutes des accusations qui me semblent extrêmement exagérées, et je ne les crois pas personnellement, comme les historiens non plus d'ailleurs. En tous les cas, on peut rendre responsable de la perte de la Terre Sainte les Templiers, parce qu'ils avaient accumulé énormément de richesses, ils étaient assez décadents. Cette arrestation a été décidée par Philippe le Bel, sans consultation des autres souverains, ni même du pape Clément V, et Clément V c'était un Français. Savez-vous que Clément V était le fondateur de l'université d'Oxford, en Angleterre, l'université d'Oxford? Alors, le pape Clément V n'a pas cherché à arrêter les Templiers. C'est lui qui était le seul à habiliter, si on peut dire, à juger de la question. Alors, pour justifier l'opération, le roi Philippe le Bel s'appuie sur une campagne de diffamation, comme je vous ai dit, se retranche derrière l'Inquisition. Et c'est là qu'il entache l'Église, lui. en se présentant seulement comme une puissance laïque au service de l'Église, pour la défense de la foi, dit-il. Alors il pose des gestes dont on accuse l'Église aujourd'hui. Mais n'est donc pas le procès de l'ordre qui est fait, mais celui de chaque templier comme citoyen. Et ceux-ci passent devant une commission laïque. Cette commission laïque utilise la torture. Tous avouent. Mais c'est pas l'Église qui les a torturés, c'est le roi, Philippe le Bel, et les siens. Et alors les templiers renouvellent ses aveux devant le tribunal de l'Inquisition présidé par le confesseur du roi. Et en apprenant l'emploi de la torture, qu'est-ce qui arrive? Ben, le pape lui-même, ce pape français, Clément V, casse les pouvoirs des inquisiteurs. Mais les dignitaires du temple renouvellent leurs aveux en présence du pape. Soit qu'il y ait eu réellement une hérésie, soit qu'il y ait eu des pressions. Et c'est alors que le pape décide d'instruire d'une part le procès de l'ordre des templiers, qui sera jugé en concile, et d'autre part de juger les templiers en procès diocésain. Certains sont emprisonnés, d'autres déclarés relapses et brûlés par les instances civiles. Et d'autres encore réintégreront des ordres différents, d'autres ordres religieux. Mais seuls les tribunaux français, Philippe le Bel, ont conclu à la culpabilité individuelle des Templiers. C'est les tribunaux français, pas les tribunaux de l'Église. Les biens de l'ordre sont dévolus par le Concile aux hospitaliers, l'autre grand ordre des hospitaliers qui était très répandu. Malgré l'opposition du roi de France, lui qui aurait bien voulu profiter de l'opération, voulu mettre l'argent dans ses poches. Alors, il y a donc un danger quand des institutions ont perdu leur raison d'être. L'ordre du temple, qui existait depuis 2 siècles, disparaît en 5 ans. C'est la faiblesse du pouvoir pontifical face à l'avidité et à la puissance du roi de France n'explique pas tout, évidemment. Il y avait une inadaptation dans la vocation purement militaire de l'ordre du Temple. Une adaptation dans les motifs de vocation. On faisait rentrer dans cet ordre des fils de famille pauvres, qui étaient des familles nobles, mais devenus pauvres. Alors les plus jeunes, on les faisait rentrer de là de force. Ils faisaient carrière là-dedans, avec peu d'esprit religieux. Pour d'autres, bien, c'est la règle qui était peu astreignante, qui les attirait. Ça permettait une vie religieuse qui n'était pas tellement ascétique. Aucun idéal ne prend donc le relais de celui du soldat du Christ. Alors l'ordre est pas très bon. On sait qu'il existait de nombreux projets du pape visant à la fusion entre le temple, l'ordre du temple, les templiers et les hospitaliers. Les projets ont échoué. De toute façon, c'est beaucoup plus une affaire civile qu'une affaire religieuse, que la suppression de l'ordre du temple quand on analyse les faits historiques. Je ne dis pas ça pour rien, je dis ça pour penser comme le père de Lubac qui dit « L'Église est ma mère parce qu'elle m'a enfanté à la vie. Elle est ma mère parce qu'elle ne cesse de m'entretenir et si peu que je m'y prête de m'approfondir dans la vie. Et si en moi la vie est encore fragile et tremblante, hors de moi je l'ai contemplée dans la force et la pureté de son jaillissement. Je l'ai vue, je l'ai touchée de manière indubitable et je puis le certifier à tous. » L'Église entière passe par les saints. Par les saints. C'est ça l'Église.